Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver au micro ce soir sur les journaux en technique avec nous, Michael Holzwang. Vous êtes sur Cannes en français. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle que ce flash qui dure 5 minutes n'est disponible qu'à la radio sur le 101.3 FM. Et nous vous invitons à nous retrouver à partir de 21h20 sur le 101.3 FM et sur la page de Cannes en français pour votre rendez-vous Facebook Live. Aujourd'hui, 21 avril, 198 jours qu'Israël est en guerre, 133 otages toujours détenus à Gaza. Le major de réserve de Tzal, Dor Zimel, 27 ans, des Van Yehuda, commandant adjoint de la compagnie du bataillon 1101-3, brigade Etzioni, est décédé suite à ses blessures après avoir été grièvement blessé la semaine dernière suite au lancement de roquettes menées depuis le territoire libanais vers l'Arabie sur Aramcha. Des dizaines de personnes manifestent au carrefour de Ra'anana pour réclamer la libération des otages. Lors de la manifestation, les manifestants portaient un cercueil dont la partie supérieure était enveloppée dans un tissu noir et le reste dans un tissu jaune et brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Sans les otages, pas de liberté », faisant référence à la fête de la Pâque juive. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a évoqué les négociations pour la libération des otages, accusant le Hamas de ne pas avoir conclu d'accord. Suite à cela, Netanyahu a déclaré que Tzal porterait sous peu des coups plus nombreux et plus douloureux au Hamas. Il a ajouté que dans les prochains jours, nous augmenterons la pression militaire et politique sur le Hamas, car c'est le seul moyen de libérer nos otages et d'obtenir notre victoire. Par la suite, le Premier ministre a déclaré qu'il combattrait de toutes ses forces quiconque souhaitant imposer des sanctions à l'armée. Tzal reste silencieux ce matin et refuse de commenter les publications d'hier soir approuvées par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, selon lesquelles les États-Unis ont décidé d'imposer des sanctions pour la première fois dans l'histoire à un bataillon de Tzal, Netzach Yehuda, pour violation des droits humains des Palestiniens en Cisjordanie. Nos confrères Ynet ont appris que des officiers du bataillon orthodoxe de Tzal avaient tenté de calmer les soldats et leur avaient fait comprendre que l'unité ne serait pas blessée et continuerait à opérer comme il se doit. L'armée craint que cette décision ne crée également une dangereuse réaction en chaîne contre d'autres unités. Le ministre Gantz, membre du cabinet de guerre, s'est entretenu ce soir avec le secrétaire d'État américain à Lincoln et lui a demandé de reconsidérer la décision apparente d'imposer des sanctions au bataillon Netzach Yehuda. Gantz a déclaré à Blinken qu'il s'agissait d'une double erreur, à la fois parce que cette décision nuirait à la légitimité d'Israël en temps de guerre, parce qu'Israël dispose d'un système judiciaire fort et indépendant et que toutes les unités de Tzal sont soumises aux ordres de Tzal qui sont conformes aux droits internationaux. Gantz a également remercié Blinken pour le programme d'aide et l'aide apportée à l'interception des missiles et roquettes lancées par le Hamas. Côté sud, lors de l'opération menée dans le camp de réfugiés de Nour al-Shams à Tul Kerem qui s'est terminée dans la nuit, 10 combattants ont été modérément et légèrement blessés. En outre, 14 terroristes ont été éliminés et 15 personnes recherchées ont été arrêtées. Au cours de l'opération, de nombreuses armes ont été confisquées et 2 laboratoires d'explosifs ont été détruits. L'armée israélienne a annoncé son intention de détruire la maison du terroriste Mourid Deada qui a perpétré la fusillade au carrefour de la police britannique en janvier. Amar Menor et le docteur Lara Thanos ont été tués dans l'attaque. Le chef d'état-major Herzi Halevi a approuvé les plans pour la poursuite de la guerre dans le commandement sud, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de Tzahal. C'est ce après que Halevi a procédé à une évaluation de la situation avec le commandant du commandement sud, le général Yaron Finkelman et d'autres commandants. Le bureau du procureur a soumis au tribunal de première instance de Be'er Sheva un acte d'accusation contre Sabah Abdel Salem Haniyeh, âgée de 57 ans, la sœur du chef du bureau politique du Hamas Ismaël Haniyeh, résidente de Tel Sheva, pour délit d'identification avec une organisation terroriste et incitation au terrorisme. L'acte d'accusation montre que le 9 octobre, Haniyeh a envoyé à des dizaines de contacts, dont son frère, des messages WhatsApp contenant des mots d'éloge, de sympathie et d'encouragement pour les actions du Hamas. Le lendemain, ainsi que plusieurs jours plus tard, Annie a envoyé un autre message dans les groupes WhatsApp dont elle est membre, dans lequel elle a appelé à prier pour la destruction de l'ennemi. Votre flash info touche à sa fin, mais restez avec nous, nous revenons à 21h20 pour votre journal complet. Shalom de Jérusalem.
Buenas noches, soy Jessica Neuwaes. Este es el flash informativo en español de las 9 de la noche. El primer ministro Netanyahu prometió asestar golpes adicionales y dolorosos a Hamas con el fin de aumentar la presión sobre el grupo terrorista para que libere a los rehenes. En un mensaje a través de un video previo a la fiesta de Pesaj, compartido en línea, Netanyahu enmarcó el conflicto actual en términos bíblicos, citando el dicho rabínico de que en cada generación se levantan para destruirnos, y afirmando que la ausencia de los rehenes durante la próxima festividad solo fortalece nuestra determinación de traerlos de regreso. Desafortunadamente, dijo, hasta ahora todas las propuestas para la liberación de nuestros rehenes han sido rechazadas rotundamente por Hamas. En lugar de retirarse de sus posiciones extremas, Hamas aprovecha la división dentro de nosotros y se anima con las presiones dirigidas al gobierno israelí. En consecuencia, no hace más que endurecer las condiciones para la liberación de nuestros rehenes. Por lo tanto, dijo, les asestaremos golpes adicionales y dolorosos, y eso sucederá pronto. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, acusó al ministro de Gabinete de Guerra, Benny Gantz, de causar daños al Estado de Israel después de que Gantz dijera a los periodistas que los ministros dañan la seguridad del Estado y no deberían formar parte del gabinete, en una aparente indirecta a sus colegas. La persona que dañó la seguridad del Estado de Israel, dijo Ben-Gvir, que impulsó el concepto de contención y rendición a Hamas, puso en peligro a los soldados de Golani, trajo trabajadores de Gaza, abrió los puestos de control en Cisjordania, cerró los equipos de respuesta de emergencia y recibió al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en su casa, fue Gantz, dijo Ben-Gvir, esto haciendo referencia a la época en la que Gantz era ministro de Defensa entre los años 2020 y 2022. En mi opinión, terminó Ben-Gvir, dijo, alguien como él no debería formar parte del gabinete. La rama libanesa de Hamas se atribuyó la responsabilidad de un lanzamiento de cohetes ocurrió hoy en la Alta Galilea. En un comunicado, el grupo terrorista dijo que lanzó 20 cohetes Grad desde el Líbano contra una base del ejército cerca de la ciudad de Yomera. No hubo informes de heridos en ese ataque. Las fuerzas de defensa concluyeron una operación de 50 horas de duración en el campo de refugiados de Nur al-Shams, esto es en Cisjordania, un lugar cerca de Tulkarem. En medio de la redada, las tropas eliminaron a 14 terroristas armados en diferentes enfrentamientos, detuvieron a 15 palestinos buscados, descubrieron también y destruyeron docenas de explosivos y capturaron armas. 9 soldados y un agente de la policía fronteriza resultaron heridos durante los enfrentamientos y los medios palestinos informaron inicialmente que el comandante de un área local de la Yihad Islámica Palestina en Tulkarem fue eliminado en medio del ataque, aunque informes ahora dicen que Muhammad Jaber, conocido como Abu Shuhaya, en realidad no murió. Supuestamente se le ve en imágenes en funerales de otros terroristas. El ministro de Gabinete de Guerra, Benny Gantz, pidió al secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que reconsidere el plan informado para sancionar al batallón Netzach Yehuda de las Fuerzas de Defensa, y dice su oficina esto en una lectura de una conversación. Dijo, sancionar al batallón mayoritariamente ultraortodoxo no solo dañará la legitimidad internacional de Israel mientras lucha contra el grupo terrorista Hamas en Gaza, sino que no hay justificación para que Estados Unidos lo haga. Esto le dijo Gantz, a Blinken. El sistema judicial israelí es fuerte e independiente, también esto lo dijo el jefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, y añadió que todas las unidades de las Fuerzas de Defensa están sujetas al código de conducta y a las órdenes de las Fuerzas de Defensa de conformidad con el derecho internacional. Los dos también discutieron la necesidad urgente de trabajar junto con socios regionales y de elaborar un plan para el día después de la guerra en la Franja de Gaza, al tiempo que presionan a Hamas para que devuelva a los secuestrados. Hasta aquí la información. Soy Jessica Neuwa. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, como todos los días en nuestro programa. Que tengan una noche tranquila. Shalom desde Jerusalén.
Χαρτούλανο πανί ραδιο καν, ρε, καλό μισή μισό γωνία, χαλέαμε με μικρόφωνο τα μερία μου σηκάσουλη. Γάμε μσουδοβιτ, τρεβαντελή, γάμις, καμασόμπα, ουκάνας κανελία. Έχουστο ένα χεβαρίο μισή με μδυναρίο βις πρόθεση, τσο είσαι σαν τηλεβλό βις μέσα βιτόρτζε, έρθω. Αν σα έρθω τσάμ και τα δίλη ήταν με βιντεο τα μόκα, έχω το τι ένιγα μοσέβα. Γουίντοντα συγχαρούλητα γουσουβλεβία. Γουίντοντα σχόλα περιχοπήλου ο γαμαρτζούβης. Τα άρης γαμαρτζούβης. Με ο χανταβαδίμις αστρό. Ας ότι τα τσάμε τη Ισραήλης μοκαλά και μτρής χαλσία. Τχόλα βασία. Τσάλι. Γραφή αυσίσια σας προλατευζάντευα. Με ώρα σε γάβες. Εσαι και χουαλτσάγαμος. Άγα της περίοτσης αμτσουχαρότ. Άμμο καλακέβης, ασόσδα τσάβετη μου καλακής κάμι, τσάρι ελιντάτ κύβιλι ανήκνεπα. Ωρι κουίρα τσίτκμις αρμόν φταρό, μις καβίνε της ρούχο περισσέ χοντρά, τες στόμα μην δινερόβς. Γαναχτά πύρουελι σατ κύβαρι, τσουένι μάιντς, κατά τσεβουχτά καντάβι σου πλαβής προτσέσια. Ρογκοριτσαρουντά έκουρανες είναι η καρδιά του λίλη του Τσοτσχαλή. Γενεράλη Μπένι Γκάντσι, που αχλώδευτ στυλότσι σαν σύντομο πρόσεσεψ. Σαν τσοχάρο τρόμμα, τα σωτμόζα τουράμε τη τρε, τα τσιρντατ, κατά τσεβουλεύσου χτεβατκά ο βασικόπα. Καυτσελεύουλη ίνπορματσίς με χαντουίτ, μα αγιορισμό αδκύλε. Δορζήμελη, ότι τα σουδιτλής, Εβεν Ιουδαντάν, ρομελίτς τσουδιμέτ, απρέλ στα ίτσιρα, πρέσκατα ίτσολα, να τελεί μις χσόνας. Τσάλις, πρέσμδίβανμα, Δανιέλ Χάγκαρμα, καύτσελα ίνπορματσιέρο, Ισραήλη Πεσαχιστής, Τάβης κουάνης σας γρέψ, ყველა ტერიტორიაზე იცავს, ყველა საზღვარზე, თუმცა არიან ის ოჯახები, რომელიც ექვემდებარება გენერალიტეტის ბრძანებას, არიან ბაზისი თუ არიან ოჯახში. ჩვენ კუტკივა, როგორც გატაცებულები, ასევე დაღუპული ჯარისკაცები, მათი ქვრივები და მათი შვილები. Ჩვენ მძიმედ ვაზღვევიებთ. Γαζής σεκτόρι ζήμε δάρτωμας μη γεψάμις πις. Κανά τσχαδά γενεραλής παϊόρμα. Πρεμιέρ μινίστρμα να κάνει ο Ισραήλης τα ουδάτσις άλεπτε σανκτής τα κυστέμπα ακρτζαλούλια. Σανκτή εμπίκη γαζέ σαν τσοχάρο αρό πλίνκ εν μα κανά τσχαδά. Πολοκυρεύεις καρμόλωμαση με μουσόβ τη Ισραήλης μου καλαγεύτε σαν ξέβεις τα τσέβεις την άγμδε. Μάτσορις Αμερικής Μταυρόβης Μαγαλτσίνος νεπτάν σάουμπας. Αντροσότσα τσένι διάρις κατσέβει ευτζιάν τέρος, ούρτσουλς, ρομλεβίτς, τάβεις σημαγλεζε, μοραλούρι σημαματσίτ, αψολτούρα τάνια να μαγλεύουλη, τσέν Αμερικήταν. Რომელი ჩვენი ერთ-ერთი ქვეყნის ყველაზე დიდი მეგობარია, ერთი მხრიდან გვთავაზობს $17 მილიარდს საჩუქარს და თხოვს ბატონი ბაიდენი დაეხმარეთ დროულად სენატს, რომ ისრაელი სერიოზული პრობლემების ქვეშ იმყოფება. მეორე მხრივ გვიწესებს სამწუხაროდ სანქციებს. Ეს ამორალური საქციელია, ამას თამაში ქვია. Ირანულმა არმარმა ამაღამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ისრაელისთვის ფრენავები თავს დაესხნენ. Დღეს ადრე ლიბანის ტერიტორიიდან ორი გაშვება დაფიქსირდა, რომლებიც გადაკვეთეს როშანიკრას ტერიტორიიდან. ძალი თავს დაესხა ხანძრის წყაროებს. Გაშვების საპასუხოდ გამანადგურებელმა თვითმფრინავებმა შეუტიეს ტერორისტულ ინფრასტრუქტურას ალ-კატრინის რაიონში. წუხალთაალმა გამოაცხადა სოფელ ატარაში მდებარე ტერორისტის მურად დაჰალდაჰის სახის ჩამორთმევის ნაღმტყორცნი ბომბების მარაგი, რომელიც კრიმინალამდე უნდა მისულიყო. სამხედრო შენობები, სადაც ტერორისტები იმყოფებიან, ტერორისტული ინფრასტრუქტურა, თალის სამხრეთ ლიბანში ტერორისტული ორგანიზაცია ჰიზბალას ოფიციალურად შეუტია. ვანიშნებენ რომ ჩვენი გადაცემისას ხომ ბოლო გადაცემა ღმერთმაქნას რომ ბოლო გადაცემა იყოს მე მინდა ბედნიერი ბედნიერი პესახი შემოგელოცოთ რომ ესეთი ტკივილით 133 სკამი არასოდეს ყოფილიყო საჩიც ოჯახში ცარიელი და მშვიდობიანი ღამე მოსულიყოს შალომ იერუშალაიმ
اینجا یروشلایم شلوم رادیو شنو مندگونی مخترم در یروشلایم خوزر ساتی نویو پونزه مویان به دقیقتتان پنج دقیقه معلومات خو میرسونیم از واقعی که در مملکت من شده ایستاده است واقعی که در مملکت من شده ایستاده میباشد جنگ از هر طرف از جنوب از شمال از ایران و از یمن و به همه این قدم ها اسرائیل گفته ایستاده است که تیار هست از روی معلومات امروز هم درون اسرائیل در خبران دو عرب ها یک با کار دیگر عرب با یراق میخواست تیره گذراندن اما اسکرها اشاره کرده آنها را نبود کرده تانستن چطور که معلوم هست در هفته گذشته قوی بختری هوای اسرائیل در زمینی ایران به ایرپورت حربی ایران در اونجا ترکیش رسانده بود ضرر آورد از روی معلومات ایران روسیه در نزدیکه ها 12 عملیات های حربی سوخوی 35 به بازای ایران رسوندنی هست بغیر از آن گفته برام دابدیم که ایران وعده داد حالا قصر خود را میگرد وقت را یافته امروز هم در شمال مملکت امان تریواگوی آگاخدی شده گذشت یک چند راکت ها همچون به سوی چند دقیقه پیش به سوی شمال مملکت ما پرانده شد اما تریواگا کار فرمودن شد از سبب که آنها در جایی کشده افتیده یکان ضرر نرساندند مسئله یک گروه حربی مملکت ما می باشد نیتسخی بوده در نیتسخی بوده پریزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت که این اسکرها این گروه از قانون بیرون هست و هر خیل رفتارهای ندرست زیدی عرب ها گذرانده ایستاده است هم وزیران اسرائیل و همچون سروزیر اسرائیل زیدی این فکری شتات متحده امریکا برآمد چند دقیقه پیش سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در برآمده خود گفت مویان البته که هر یکی که از یک گروهی قوی بختری اسرائیل را بد کردنه است ما این البته طرفداری آن هستیم و آنها یگان رفتاری از قانون بیرون ندارن 198 روزی جنگی شمشیرهای تیموری خدا ختمایم پگاه شو ایدی پسخ رو پیشواز میگریم اما فراموش کرده ما ممکن است که حالا 133 به گروی گرفتشیگان در دستی تشکیلات حماس هستند. از روی معلومات امروزه بسیار تری آنها علاقه نبود شدند. از روی یک سایت فقط 40 به زنده ماندگی آنها حالا گفته معلوم گردید. تشکیلات حماس گفته ایستاده است که مایان به آزاد کردنی 20 به دست گرفتگیان آزاد کردنی هستیم و آن می باشد بعدی که در دوام 6 هفته قوی بختری اسرائیل جنگ را وقتی چه بس کردنی هست از اول گفتم ایتان که قوی بختری اسرائیل جنگ را دوام داده ایساس برای نبود کردنی تشکیلات حماس آنها در دست خود قوی بختری در دست خود اسکرهای قوی بختری اسرائیل را نگاه داشته ایستادن و همچون ساخنانی در پسالکایی که در به سرخط با سکتر از نزدیک بودن تشکیلات حماس در همین روزا از قطر به ترکیه رفته در اونجا با پریزیدنت ترکیه رجب طیب اردوان و خوریا گذرانده ایستادن اسرائیل گفته ایستاد است با مایان فرق ندارد کجا رهبرانی تشکیلات حماس جایگیر هستند با مایان اگر آنها در قطر باشند یا که در ترکیه باشند مایان وقت را یافته به آنها ضررها میرسانیم مایان خدا خط پگاه ساعتی دوزنیم به شما با یک چند معلومات ها روز دوشنبه پگاه مایان به شما یک چند معلومات ها ساعتی دوزنیم میرسانیم شلوم میروشلایم موسیقی
Il est 21h. Vous êtes sur Cannes, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver au micro ce soir chez les journaux. En technique avec nous, Michael Holschwang. Vous êtes sur Cannes en français. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Alors aujourd'hui, 21 avril, 198 jours qu'Israël est en guerre. 133 otages toujours détenus à Gaza. Notre invité du journal de ce soir sera Jonathan Serrero, spécialiste de la vie politique israélienne, qui nous fera un topo sur l'actualité. Dans le journal de ce soir, on recevra Raoul Spieber, enseignant toranique et éducateur, qui nous parlera de la fête de Pessah, donc la Pâque juive, qui aura lieu demain soir. Mais avant tout, voici le résumé de ces dernières 24 heures.
Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présentée par Shirley Journeau.
Le major de réserve de Tzahal, Dor Zimel, 27 ans, des Van Yehuda, commandant adjoint de la compagnie du bataillon 8003 de la brigade Etzioni, est décédé suite à ses blessures après avoir été grièvement blessé la semaine dernière suite au lancement de roquettes menées depuis les territoires libanais vers l'Arabie sur Aramcha. Des dizaines de personnes manifestent au carrefour de Ra'anana pour réclamer la libération des otages. Lors de la manifestation, les manifestants portaient un cercueil dont la partie supérieure était enveloppée dans un tissu noir et le reste dans un tissu jaune et brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Sans les otages, pas de liberté » en relation, en anecdote avec la fête de la Pâque juive qui célèbre la liberté. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a évoqué les négociations pour la libération des otages, accusant le Hamas de ne pas avoir conclu d'accord. Suite à cela, Netanyahou a déclaré que Tzahal porterait sous peu des coups plus nombreux et plus douloureux au Hamas. Il a ajouté que dans les prochains jours, nous augmenterons la pression militaire et politique sur le Hamas, car c'est le seul moyen de libérer nos otages et d'obtenir notre victoire. Par la suite, le Premier ministre a déclaré qu'il combattrait de toutes ses forces quiconque souhaitant imposer des sanctions à l'armée. Tzahal reste silencieux ce matin et refuse de commenter les publications d'hier soir approuvées par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, selon lesquelles les États-Unis ont décidé d'imposer des sanctions pour la première fois dans l'histoire à un bataillon de Tzahal, Netzach Yehuda, pour violation des droits humains des Palestiniens en Cisjordanie. Nos confrères Ynet ont appris que des officiers du bataillon orthodoxe de Tzahal avaient tenté de calmer les soldats et leur avaient fait comprendre que l'unité ne serait pas lésée et continuerait à opérer comme il se doit. L'armée craint que cette décision ne crée également une dangereuse réaction en chaîne contre d'autres unités. Le ministre Gantz, membre du cabinet de guerre, s'est entretenu ce soir avec le secrétaire d'État américain à Lincoln et lui a demandé de reconsidérer la décision apparente d'imposer des sanctions au bataillon Netzach Yehuda. Gantz a déclaré à Blinken qu'il s'agissait d'une double erreur, à la fois parce que cette décision nuirait à la légitimité d'Israël en temps de guerre et parce qu'Israël dispose d'un système judiciaire fort et indépendant et que toutes les unités de Tzahal sont soumises aux ordres de Tzahal qui sont conformes au droit international. Gantz a également remercié Blinken pour le programme d'aide humanitaire et l'aide apportée à l'interception des missiles et roquettes lancées par le Hamas. Alors, ce soir, nous recevons Jonathan Serrero, spécialiste de la vie politique israélienne. Jonathan, vous suivez depuis quelques mois maintenant le conflit en cours sur le terrain entre Israël et les organisations terroristes de la région. Bonsoir, Jonathan.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Alors, Jonathan, pour la première question, on va parler des sanctions que les États-Unis ont imposées sur le bataillon Netzach Yehuda. Alors, que représentent ces sanctions? Que veut-elle dire? Que veulent-elles dire? Excusez-moi, et sont-elles justifiées?
La question serait peut-être de savoir comment Washington est mise au courant des agissements du bataillon de Netzach des soldats de cette brigade Netzach Yehuda au cœur de la bande de Gaza. Comment Washington connaît cette brigade parmi l'ensemble des brigades que compte Tzahal. Il faut savoir qu'il y a des organisations proches de l'extrême gauche israélienne comme B'Tselem ou d'autres qui informe Washington et les chancelleries occidentales sur les actions de Tsahal, de maintien de l'ordre ou des opérations menées par Tsahal sur le terrain de guerre, et qui informe en continu l'ensemble des représentants américains, que ce soit démocrates ou républicains, et accuse notamment ces soldats de crimes de guerre ou d'agissements non conformes au droit international commis par ces soldats des différents bataillons de Tsahal, et en l'occurrence ce bataillon Netzar Yehuda. Car il faut savoir, ce bataillon Netzar Yehuda est composé aussi de soldats venus de l'étranger, notamment des États-Unis ou notamment aussi de France. Beaucoup de candidats à l'Alia se sont enrôlés dans ce bataillon Netzar Yehuda et sont donc peut-être soumis à la loi de leur pays, que ce soit aux États-Unis, en Belgique ou en France. Et donc sont à même à pouvoir être, entre guillemets, éventuellement condamnés par les cours de justice de leur pays. Donc ce sont des cibles faciles pour ces organisations de gauche, mais aussi pour l'administration américaine. Toute cette histoire pourrait aussi ouvrir la porte à des sanctions qui pourraient être prises contre des personnalités de la vie politique ou de la vie militaire israélienne. Dans les instances internationales, je le sais, les responsables israéliens craignent par-dessus tout que la Cour pénale internationale de la Haye se saisisse de l'ensemble des agissements commis et de l'ensemble des décisions prises par l'échelon militaire ou politique israélien contre notamment Israël et contre notamment ses responsables israéliens. On le sait, l'autorité palestinienne est très active dans ses actions et dans ses actions de justice contre l'État d'Israël. Donc cette histoire, c'est une histoire qui pourrait coûter cher à Israël, et c'est la raison pour laquelle l'ensemble de l'échiquier politique israélien réagit avec force contre ces déclarations de l'administration américaine.
Alors maintenant, on va passer plutôt côté nord. Donc depuis l'attaque de l'Iran, des attaques attribuées à Israël ont eu lieu en Iran, sans qu'Israël, bien sûr, les revendique. Est-ce que vous pensez que l'on se dirige vers une escalade, ou alors que les représailles en resteront là avec le Hezbollah ?
Dans un premier temps, on pourrait parler de double victoire israélienne. Une double victoire israélienne sur le plan notamment défensif, avec l'interception de 99% des 350 missiles et drones qui ont été envoyés depuis le sol iranien vers le territoire israélien il y a de cela maintenant une semaine. Et donc, cette opération imputée à Israël au cœur même du territoire iranien, du côté d'Ispahan, contre des installations militaires qui seraient situées proches d'une centrale nucléaire iranienne. Donc Israël s'en sort à bon compte, sans signature apparente, et en évitant une riposte militaire iranienne, et donc une escalade beaucoup plus grave dans la région, comme le souhaitait notamment l'administration américaine. Mais, il faut le dire, l'Iran agit toujours à travers ses proxys contre le territoire israélien, depuis le Liban, depuis la Syrie, depuis l'Irak, depuis le Yémen, mais aussi depuis la bande de Gaza avec le Hamas. Donc, l'Iran, je dirais, maintient la pression sur Israël.
Voilà, comme d'habitude, j'avais envie de vous dire, ça fait depuis plusieurs mois maintenant que ça dure, donc il n'y a pas de changement. C'est-à-dire, les choses resteront telles quelles, quoi, finalement.
Totalement. Et il faut, quand j'entends certains analystes qui disent l'Iran ne souhaite pas entrer en guerre contre Israël, ne souhaite pas la guerre, ou le Hezbollah ne souhaite pas entrer dans un conflit plus élargi contre Israël, cela fait maintenant 6 mois et plus maintenant 200 jours qu'Israël est engagé sur plusieurs fronts dans une guerre sanglante qui nous a coûté des milliers de vies. On a encore perdu un soldat aujourd'hui suite à une attaque de drones meurtrières la semaine dernière dans le nord d'Israël. Donc c'est une guerre coûteuse en hommes, en argent. Et c'est une guerre, tout simplement.
Alors, ne serait-il pas souhaitable, justement, cette escalade-là, ne serait-elle pas souhaitable qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, mais qu'on fasse bouger les choses? Combien de temps on va rester dans cette situation où on s'envoie, l'un s'envoie des missiles, l'autre répond, l'autre... Les réfugiés, les évacués, ils ne sont toujours pas revenus dans le nord.
Il faut comprendre que nous sommes dans un équilibre des forces et dans un contexte aussi géopolitique qui est au désavantage d'Israël aujourd'hui. Et Israël ne peut pas se permettre d'ouvrir plusieurs fronts en même temps, plusieurs fronts élargis en même temps. Il y a une guerre qui est amenée contre le Hamas dans la bande de Gaza et il faut là-bas finir le travail car, il faut le rappeler, c'est le Hamas qui a ouvert cette guerre contre Israël par l'intermédiaire et avec l'aide de l'Iran. Certes, l'Iran a commis une erreur grave en frappant depuis son sol Israël. Israël avait un message à adresser à l'Iran. Il l'a adressé. Fin pour le moment de cette séquence, de cette partie. Et il faut aussi ajouter que Israël fait tout pour éviter un conflit plus large avec le Hezbollah du côté du Liban. Le Liban, c'est la patate chaude dans la région, avec des intérêts étrangers importants. Et sur ce point-là, Israël ménage les susceptibilités et ménage la chèvre et le chou dans ce dossier-là.
Alors justement, vous avez évoqué le Hamas et comme quoi il fallait terminer d'abord le travail dans le sud. Bon, on a l'impression que ça bouge pas non plus de ce côté-là. Netanyahou ce soir a déclaré qu'Israël allait frapper de façon conséquente le Hamas. Alors ça fait plusieurs semaines qu'on entend, qu'on nous promet cette incursion terrestre à Rafiah. Pensez-vous que les choses vont bouger dans le sud et qu'on va agir militairement pour récupérer nos otages, d'autant plus que je rappelle qu'on s'est retiré de Khan Younis. Donc on a l'impression qu'au lieu de progresser, on régresse un petit peu.
Sur ce dossier de Gaza, il y a une sorte d'incompréhension. Il y a d'un côté les négociations qui n'avancent pas et qui donnent l'impression aussi que sur le terrain, rien ne se passe. Or, en début de guerre, l'échelon politique et l'ensemble des dirigeants de l'État d'Israël ont prévenu que cette guerre va être longue et cette guerre va comporter plusieurs phases. Il y a dans le nord de la bande de Gaza, Tsahal est de rentrer dans une troisième phase avec des opérations beaucoup plus ciblées, notamment à Jabalia, notamment du côté de Beit Lahia, et Tsahal mène aussi des opérations dans le centre de la bande de Gaza, du côté de Nusayrat. Donc la guerre continue contre le Hamas. Maintenant, il y a la question de Rafah. La question de Rafah comporte aussi d'autres éléments, notamment humanitaires. Comment évacuer ce million et demi de personnes de cette partie, de la partie sud de Rafah. On le sait, Rafah est aussi proche de la frontière avec l'Égypte, donc c'est un point stratégique sensible. Le Hamas le sait, il y a l'axe Philadelphie, et il y a eu bien évidemment des discussions qui ont été menées avec les dirigeants égyptiens, mais aussi avec les partenaires américains et les partenaires occidentaux sur la future opération de Rafah. Donc le Premier ministre a réclamé du temps à la population israélienne, et de manière totalement compréhensible. La population israélienne est quelque peu usée en ce moment, après six mois de conflit continu.
On a l'impression de ne pas avancer. Les otages ne sont toujours pas rentrés. Mais comme vous dites, c'est une guerre qui est longue. Excusez-moi, je vous ai coupé, allez-y.
Non, surtout sur la question des otages. 133 otages sont encore retenus captifs et sont encore entre les mains du Hamas. C'est s'apprête à fêter la fête de Pessah demain. Et de manière totalement naturelle, chacun a un pincement au cœur de voir encore 133 de nos frères et sœurs encore retenus prisonniers des barbares du Hamas. On espère que cette opération de Rafah fera avancer les choses, permettra de libérer les otages, mais cela prendra du temps.
On espère surtout qu'elle arrivera, parce que, enfin, vous avez dit, je reprends vos mots, comme quoi c'était compliqué sur de plusieurs paramètres rendait l'incursion très compliquée, notamment par exemple l'évacuation des réfugiés palestiniens. Mais ça fait vraiment plusieurs mois qu'on est sur cette incursion à Rafir. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle et on a l'impression que voilà quoi, ça progresse pas.
Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, a donné une chance aux négociations d'aboutir. Il y a eu des négociations qui ont été menées avec l'ensemble des partenaires et des médiations égyptiennes ou qataris. Et les négociations n'ont abouti à rien, abouti à raffermir encore le cœur de Hamas, pour reprendre une expression
qui est
en ce moment. Et donc, on arrive au bout de cette logique de négociation. Oui. Benjamin Netanyahou a annoncé une future opération du côté de Rafah. Ce soir, le chef d'état-major de Tzal, Herzl Halevi, a donné son feu vert à la suite des opérations de la guerre dans la bande de Gaza. Donc, je pense que cette opération dans Rafah devrait arriver assez vite.
Jonathan Serrero, merci beaucoup pour cette interview très intéressante. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et en espérant vous recevoir très bientôt sur les ondes de Canon Français de nouveau.
Merci.
Bonne
merci,
soirée. Au revoir. Côté sud, lors de l'opération menée dans le camp de réfugiés de Nour al-Shams à Toulkerem qui s'est terminée dans la nuit, 10 combattants ont été modérément et légèrement blessés. En outre, 14 terroristes ont été éliminés et 15 personnes recherchées ont été arrêtées. Au cours de l'opération, de nombreuses armes ont été confisquées et 2 laboratoires d'explosifs détruits. L'armée israélienne a annoncé son intention de détruire la maison du terroriste Mourid Deada qui a perpétré un acte terroriste en janvier. Amar Menor et Dr Lara Thanos ont été tués dans cette attaque terroriste. Le chef d'état-major Herzl Halevi a approuvé les plans pour la poursuite de la guerre dans le commandement sud. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de Tzahal, ce après que Halevi a procédé à une évaluation de la situation avec le commandant du commandement sud, le général Yaron Finkelman et d'autres commandants. Le bureau du procureur a soumis au tribunal de première instance de Be'er Sheva un acte d'accusation contre Sabah Abdel Salem Haniyeh, 57 ans, la sœur du chef du bureau politique du Hamas Ismaël Haniyeh, résidente de Tel Sheva, pour délit d'identification avec une organisation terroriste et incitation au terrorisme. L'acte d'accusation montre que le 9 octobre, Haniyeh a envoyé à des dizaines de contacts, dont son frère, des messages WhatsApp contenant des mots d'éloge, de sympathie et d'encouragement pour les actions du Hamas. Le lendemain ainsi que plusieurs jours plus tard, Annie a envoyé un autre message dans les groupes WhatsApp dont elle est membre, dans lequel elle a appelé à prier pour la destruction de l'ennemi. Qu'Allah n'en laisse aucun, les massacre et nous garde loin de leur mal, c'est ce qu'elle aurait écrit. Côté nord, des avions de combat de l'armée de l'air ont attaqué 2 bâtiments militaires où résidaient des terroristes dans la région d'Aïta al-Shahab au sud du Liban, ainsi que les infrastructures terroristes du Hezbollah dans les zones d'Al-Nakoura et de Majal. En outre, plus tôt dans la journée, 2 lancements provenant du territoire libanais ont été détectés et se dirigeaient vers la région de Rosh Hanikra en Israël. En réponse, Tzahal a attaqué les sources des tirs. Le centre médical Galilée de Naharia a informé qu'un homme de 36 ans avait été légèrement blessé dans la région de Rosh Hanikra après avoir été touché par une roquette. Il subit actuellement des examens aux urgences, a-t-on indiqué. Durant la nuit dernière, des avions de combat de l'armée de l'air ont attaqué des cibles terroristes dans 3 zones du sud du Liban. Le porte-parole de Tzahal a déclaré que lors d'une des attaques, un terroriste a été identifié opérant depuis un bâtiment militaire du Hezbollah dans la région de Tir Arfa. Des avions de combat ont attaqué le bâtiment et l'ont détruit. Un poste d'observation dans la région d'Al-Adeissa et 2 bâtiments militaires de l'organisation terroriste dans la région d'Al-Khiyam ont aussi été pris pour cible. Le président du camp étatique, le ministre Benny Gantz, a déclaré dans une déclaration aux médias que les ministres qui nuisent à la sécurité de l'État ne devraient pas siéger au cabinet selon lui. des discussions critiques ne devrait pas siéger au cabinet. Selon lui, des discussions critiques pour faire avancer les objectifs de la guerre doivent également avoir lieu les samedis et jours de fête. Il n'y a pas de temps à perdre pour les otages. Les soldats ne s'arrêtent pas sur le champ de bataille. Les hommes d'État devraient également le faire. Nous devons donner l'exemple personnel et certainement pas nous engager dans des divisions ou tenter d'adopter des lois et des décisions qui nuisent à notre sécurité et à nos intérêts politiques. Le bureau du procureur a déposé un acte d'accusation auprès du tribunal de district de Haïfa contre un garçon de 17 ans, originaire d'une des colonies de Wadi Hara, pour tentative de meurtre. Selon l'accusation, le garçon voulait assassiner des juifs, pensait que c'était son devoir de djihad. En avril, il a quitté son domicile pour mener une attaque à Afula et a même préparé un testament. Toujours dans ce même sujet, le bureau du procureur a déposé un acte d'accusation auprès du tribunal de première instance de Be'er Sheva contre Hussein Al-Karishat de la colonie d'Abu Roubiye et Youssef Abu Hadza de Tel Sheva pour avoir causé la mort par négligence après avoir conduit un terroriste qui se transportait qui a perpétué un acte terroriste à Gan Yavne, ce malgré le fait que le terroriste se trouvait alors illégalement en Israël. La Chambre des représentants à Washington a approuvé la loi d'aide supplémentaire à Israël d'un montant de 26 milliards de dollars, dont plus de 14 milliards pour l'aide humanitaire. 366 délégués ont soutenu la proposition contre 56 contre. Notre reporter Nathan Gutman rapporte que le plan de secours comprend également une aide humanitaire s'élevant à 9 milliards de dollars pour les Palestiniens. Il s'agit de l'aide la plus importante jamais accordée à Israël et elle s'ajoute au programme d'aide militaire annuel. La Chambre des représentants a également approuvé une aide à l'Ukraine de plus de 60 milliards de dollars, ce qui a suscité une controverse parmi les législateurs. Notre auditeur Itamar Margalit dit qu'après le vote, le président Biden a exhorté le Sénat à se dépêcher et à approuver cet énorme plan d'aide humanitaire afin qu'il puisse signer la loi et qu'il soit possible de la mettre en œuvre le plus rapidement possible. Le Hamas a publié une déclaration dans laquelle il affirme que l'approbation du programme d'aide à Israël hier soir par la Chambre des représentants américaine signifiait un feu vert pour la poursuite de l'agression contre les Palestiniens. Le communiqué indique que l'administration américaine porte la responsabilité politique, juridique et morale des crimes de guerre commis par Israël contre les Palestiniens à travers son aide militaire qui viole le droit international et donne le feu vert à la cruauté contre notre peuple. Le rabbin Eli Boeschler, directeur de l'organisation OU à l'Université de Columbia à New York, a envoyé aujourd'hui un message à environ 300 étudiants juifs de l'université, leur conseillant de rentrer chez eux et de ne pas rester sur le campus pendant la Pâque juive après avoir vu des scènes choquantes, selon lui, de harcèlement antisémite là-bas. En général, il règne une atmosphère dangereuse pour les étudiants juifs sur le campus et l'administration universitaire ou la police de New York ne leur assure pas la protection nécessaire, explique le rabbin Bouchler. Notre auditeur Itamar Margalit raconte qu'à la fin de la semaine dernière, les forces de police de la ville ont nettoyé les camps de protestation installés par des manifestants et des étudiants pro-palestiniens et en ont arrêté plus d'une centaine pour violation de l'ordre. En ce qui concerne la météo, cette nuit le temps sera clair à partiellement nuageux. Demain, les températures augmenteront principalement dans les montagnes à l'intérieur du pays. Et mardi, pour la Pâque, il y aura une augmentation significative des températures et il fera plus chaud que d'habitude jusqu'à devenir caniculaire dans la plupart des régions. Il est 21h43. Merci de nous avoir suivis. Cannes en français vous souhaite de très très bonnes fêtes de la Pâque juive, une bonne délivrance pour tout le monde. Et c'était Shirley Journeau au micro, Michael Ojemang en technique avec nous. Merci de nous avoir suivis. Shalom de Jérusalem.
Littérature, société, culture, spectacle, le magazine de Cannes en français.
Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Raoul Spieber, enseignant toranique et éducateur, qui va nous parler de la fête de Pessah, qui aura lieu donc demain soir. Raoul, merci beaucoup d'être de nouveau avec nous pour une nouvelle interview sur les ondes de Cannes en français.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie de m'inviter régulièrement à communiquer, à partager, puisque c'est ce que les enseignants aiment faire, c'est de partager avec le plus grand nombre des sujets, des idées, des questions surtout.
Exactement. Alors Raoul, comme on vient de le rappeler, demain c'est la fête de Pessah, c'est la Pâque juive, la fête de la délivrance, là où tout a commencé pour le peuple juif, donc de l'esclavage à la liberté, de l'ombre à la lumière. Comment pouvons-nous fêter la liberté cette année, alors que nous sommes toujours en guerre et alors que nos frères sont toujours prisonniers du Hamas à Gaza?
Bien, c'est une excellente question. C'est une tellement forte question qu'elle a accompagné toute l'histoire juive. On peut dire que depuis la sortie d'Égypte, presque à chaque génération, des grands hommes d'Israël se sont demandé « Mais qu'est-ce que c'est que cette sortie d'Égypte pour nous aujourd'hui ? Comment pouvons-nous fêter Pessah ? Eux sont sortis d'Égypte, mais nous, non seulement dans les différents exils, mais on trouve même à l'époque les Shoftim, les juges comme Gidon, qui se demandent « Quelle est cette pertinence de la sortie d'Égypte ? » Et voilà, on est ici, en Eretz Israël, et il y a les ennemis qui viennent et qui nous dominent et qui nous prennent nos récoltes, etc. Où est la délivrance ? Où est la puissance d'Hachem qui s'exprime dans la sortie d'Égypte ? Cette question, elle a jalonné l'histoire juive. Et la force du peuple juif, c'est de la surmonter. Non pas d'y répondre pour éteindre la question, mais pour l'entendre profondément. J'ai l'habitude, quand je me prépare à Pessah, je discute avec mes élèves, de rapporter un texte du Rav Oshri, celui qui était, peut-être vous avez entendu parler, celui qui était le Dayan de Kovno, qui était en Lituanie pendant l'occupation nazie, qui a refusé de se sauver pour rester avec les autres, qui a été déporté à Auschwitz, et qui a rédigé après la guerre, chez Lot Mima Makim, les questions dans l'abîme, les questions qu'on lui posait dans le cœur de l'abîme à Auschwitz. Et des questions terribles qu'on pose où des gens peuvent sauver leur vie en exposant quelqu'un, sauver leur fils à la place de quelqu'un d'autre, toutes sortes de questions qui sont vraiment des dilemmes terribles. Et on voit comment les gens, au cœur du mal, s'interrogent sur l'attitude juste à avoir jusqu'au bout. Et parmi eux, il y en a un qui demande au Rav Oshri, je fais en secret les prières du matin, mais il y a une bracha que je ne peux pas faire. La bénédiction nous récitons chaque matin où nous remercions Hachem. Baruch atah Hachem, Elokeinu melech haolam, shelo asani aved. Merci Hachem de ne pas m'avoir fait esclave. Et disent les gens au milieu de l'enfer, on ne peut pas dire qu'on n'est pas esclave, on est des esclaves. Et même on est des esclaves, la pire est faite, parce que les esclaves en général, dans l'Antiquité, il ne faut pas s'imaginer qu'ils sont toujours dans une situation terrible. Les esclaves, c'est en fait les forces de travail de l'époque disponibles. Donc en général, on les entretient pour garder leur force de travail. Et nous, on est utilisés à mort. On n'est pas respectés, même pas comme des animaux. Mmh. On travaille à l'épuisement. Et comment peut-on dire qu'on n'est pas esclave ? Et alors, le Rav Oshri est un érudit, donc il a tous les textes en tête et il cherche la réponse appropriée. Et il se rappelle en plein abîme, il se rappelle de l'intérêt du Maharal de Prague, où le Maharal de Prague répond à des gens qui souffrent de la même façon. Et il leur dit, mais justement, la liberté de Mitzrayim, c'est une liberté de l'âme, c'est un combat de l'homme. C'est un combat de l'homme qui affirme « Je ne suis pas ce que toi, tu veux faire de moi. Toi, tu veux faire de moi un esclave, mais Akadosh Baruch Hu m'a fait libre. Et moi, j'obéis, je suis serviteur d'Hachem. »
Ah, c'est incroyable. C'est une magnifique réponse.
Depuis la sortie d'Égypte, les Bnei Israël disent au monde « L'homme n'appartient pas à l'homme. L'homme est unique. » Et il n'appartient qu'à Hachem. Il est sujet d'Hachem. est libre par rapport aux autres hommes. Et même si toi, tu veux faire de moi un esclave, tu peux pas. Tu peux que agir sur mon corps. Mais quand moi, je dois prendre une décision, par exemple, une décision de savoir si je dois, dans cette situation, respecter la loi ou transgresser la loi, je réfléchis pour savoir ce que la halakha me demande, ce que la loi juive me demande. Et quand elle me dit que je dois sauver ma vie parce que la vie est sacrée, et manger quelque chose de pas cachère, je n'obéis pas aux nazis, j'obéis à la loi. Et quand la loi me dit « oui, mais tu ne dois pas sauver ta vie au dépend de la vie d'un autre, d'un innocent », alors j'obéis pas non plus aux nazis, j'obéis encore à Hachem, j'obéis à la loi. Et le juif, dans toutes les situations de l'histoire, il a sauvegardé en lui cette liberté intérieure, cette liberté de l'âme. Et j'en reviens à la question que vous avez posée le soir de Pessah. C'est cette liberté de l'âme qu'il faut faire luire. Parce que tous les textes disent « Hayav Adam nirot et atzmo » ou « Leharot et atzmo » un homme doit à la fois voir et montrer qu'il est sorti d'Israël. Il ne s'agit pas de faire du théâtre, il s'agit de faire luire en nous la dimension de liberté, cette capacité à être des hommes libres dans toutes les situations, cette capacité à ne pas être petit, cette obligation d'affirmer cette liberté et de la transmettre.
Alors justement, Raoul, on voulait vous poser cette question par rapport au levain, au chametz, à tout ce qui... Donc quel est le rapport entre cette obligation de manger de la matzah, donc le pain du pauvre, l'interdiction du chametz, donc du levain, et la liberté que l'on célèbre à ce soir de Pessah ?
Eh bien, précisément, c'est un sujet très important et je suis content qu'on en parle ce soir. On va faire la quatre chametz. On va rechercher le chametz dans tous les coins et où ça paraît, on va dire, une attitude un petit peu obsessionnelle de chercher des miettes un peu partout. L'interdit de posséder du chametz, c'est un interdit très spécial puisque c'est le seul interdit alimentaire qu'on ne doit ni manger, ni tirer profit, ni même posséder. Il n'y a pas d'équivalent dans les interdits alimentaires. Le seul interdit où on a la même chose, c'est l'interdit de posséder, c'est par rapport à l'idolâtrie. C'est-à-dire, quel est le rapport entre l'idolâtrie et le chametz ? L'idolâtrie, c'est adorer, se rendre serviteur de la puissance de la matière. On va le dire aujourd'hui, pour prendre des termes modernes, parce que l'idolâtrie, ça ne nous parle pas beaucoup, penser qu'on est esclave de l'économie. Penser qu'on est esclave du temps. Penser qu'on obéit aux circonstances. Pour sortir de Mitzrayim, quand les portes de l'Égypte se sont ouvertes, le texte nous dit leurs pattes n'avaient pas encore levé.
Alors
les Israélites étaient tentés de dire, bon, ben maintenant qu'on est libre, et si on attendait un petit peu plus que la pâte lève et qu'on puisse mettre au four une pâte qui a levé, qui est meilleure, qui nous fera du pain. C'est la tentation. Si un homme a la liberté devant lui,
oui,
et qu'il hésite, il attend, parce qu'il attend que la pâte lève, eh bien il ne pourra jamais sortir. La capacité pour Israël de sortir vers la liberté, c'est la capacité à ne pas attendre que la pâte lève. Alors nous, chaque année, en se débarrassant du chametz, on se débarrasse, selon l'expression du Maharal, du pouvoir du temps. Du poids et du pouvoir du temps qui nous cloue, qui nous demande d'attendre que la matière nous autorise à partir. Nous sommes libres. Nous n'allons pas attendre que les circonstances extérieures nous permettent d'être libres. Dès que nous en avons la possibilité, nous sortons. Nous abandonnons. Vous voyez, au moment la Torah parle du Hametz déjà, de la Matzah, on va dire. Déjà bien avant, elle en parle à propos de Lot. Quand Lot a reçu les fameux invités qui étaient chez Abraham et qui lui ont annoncé la destruction de Sodome, il leur a servi des matzot. Midrash nous dit que c'était Pessah. Lot, avant la sortie d'Égypte, il a compris cet enjeu de la liberté que représente la matzah, la pâte qui lève ou la pâte qui ne lève pas. Mais au moment de sortir, c'est marqué Vaitmaam. Il a hésité.
Okay.
Il a hésité. Il y a un accent de cantillation, un accent tonique très très long, qui dit qu'à ce moment-là, il a hésité très longuement. Il n'arrivait pas à sortir. Il avait bien préparé des matos. Il avait compris tout ce qu'Abraham avait expliqué. Mais au moment de sortir, il était coincé. Il ne voulait pas lâcher ce qu'il a en confondant ce qu'il a et ce qu'il est. Se débarrasser du Hametz, c'est de se débarrasser de l'avoir qui nous aliène pour entrer dans l'avenir où on exprime ce que nous sommes véritablement.
Mmh.
Cette recherche du Hametz, elle est en généralement une recherche spirituelle où on se débarrasse avec le Hametz de toutes ces habitudes qui nous aliènent pour sortir vers la liberté. Je pense que cette année, effectivement, il faut très fortement affirmer que nous sommes le peuple de la sortie d'Égypte, que nous célébrons la liberté, que cette liberté, elle hurle et elle réclame la liberté pour tous les otages, la liberté pour tous ceux qui sont enfermés dans l'esclavage. Et nous nous situons du côté de l'espérance, du côté du combat, du côté de l'avenir que le peuple d'Israël porte depuis la sortie de Mitzrayim jusqu'à nos jours.
Raoul, merci beaucoup encore une fois pour une interview comme d'habitude tellement riche et pleine de sens et de renforcement. On espère qu'Hachem viendra aussi cette année lui-même d'une main forte et d'un bras étendu nous délivrer. Je vous remercie encore mille fois pour cette interview et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Chag Sameach.
Alors à tout le monde, Pessah Sameach le Kasher, que le Pessah soit à la fois évidemment qu'il soit Kasher, mais qu'il soit surtout joyeux. Soit porteur de joie et d'espérance pour tous.
Amen. Merci
à vous.
Chag Sameach. Au revoir.
אני שייך לעם, הכי עתיק בארכיון, אני שייך לעם, שלא הבין כל היסטוריון, אני שייך לעם, אפילו הטבע מתחתיו, אני שייך לעם, שים גדול נס מפניו, אני שייך לעם, שעוד יזכה לראות הסוף, אני שייך לעם, שלף פלסף כל פילוסוף, אני שייך לעם, שהיגיון בו לא תופס, אני שייך לעם, שבשבילו נברא הנס, הזמן השתנה, העם שלי. מכל העמים, מכל העמים, שבכל ימים אלי להם. לא רואים ולא שומעים, לא רואים ולא שומעים, והעם שלו אני שייך השם שרד בכל עידן אני שייך לעם שלא פיתח אותו מדען אני שייך לעם שמאמין בחכמים אני שייך לעם שעם אביו הולך תמים אני שייך לעם שקרא מלשם אליי אני שייך לעם שאפו שייך אליי אני שייך לעם אני בחר ומאחר שאני שייך אליו אני מודה ואני שר את מה נשתנה העם שלי מכל